France Musique. Les grands entretiens. France Musique. Émilie Munera.
Je suis Juliette Hurel. Je suis née le 14 mai 1970 à Auxerre et j'ai le bonheur d'être flûtiste.
Juliette Hurel, on va parler aujourd'hui de musique de chambre. Vous l'avez évoqué, cette musique de chambre avec Maurice Bourg. Vous avez beaucoup parlé d'Hélène Couvert, donc on va reparler de ce professeur et de cet ami de longue date. Maurice Bourg, ça a été votre grand maître pour la musique de chambre. C'est avec lui vraiment que vous avez travaillé en premier ce répertoire chambriste.
Je dois absolument nommer David Walter, qui était mon premier professeur de quintette avant. Et alors lui, c'est le roi du quintette avant, puisqu'il joue depuis... 5 siècles au moins avec le quintet de Moragas. Et donc là, lui, il nous a donné des très très bonnes clés de travail. Puis après, Maurice Bourg.
Quelle est la clé alors? Est-ce que vous le savez maintenant?
L'écoute, en tout premier. Et puis, c'est très intéressant humainement, hein, la musique de chambre. J'ai appris à savoir comment demander quelque chose ou comment faire une remarque. Ça, on doit l'apprendre, pas dire « oh, bah t'es trop haut là ». On ne dit jamais ça. Est-ce que tu penses qu'on peut voir cet accord tous les deux? Voilà, et puis ne pas mettre la faute sur l'autre, parce que c'est tout à fait possible que ce soit soi-même. De toute façon, c'est jamais toi, t'as faux, c'est jamais ça comme ça. Et ça, c'est beau, ça, d'apprendre ça. Communiquer et de dire les choses bien et de faire que le but, c'est de jouer mieux.
La grande partenaire, donc Juliette Hurel, vous l'avez évoqué tout au long de ces grands entretiens, c'est Hélène Couvert. Et vous nous l'avez dit, vous l'avez rencontrée très tôt. Donc c'était au conservatoire, vous étiez au conservatoire,
oui,
ensemble.
C'est une très belle rencontre, en fait. Je la connaissais par des amis communs, pas tellement plus que ça. Et un jour, je l'entends en concert. Elle jouait des pièces de Schumann avec l'altiste Jean-Paul Midalibella, avec qui elle faisait de la sonate. Je me dis, mais elle joue trop bien, j'adore comme elle joue. Et moi, j'étais à la recherche désespérément d'un ou d'une pianiste qui accepterait de jouer avec une flûtiste qui n'a pas le répertoire des violonistes, des violoncellistes. Mais je rêvais de constituer un vrai duo qui dure pour monter tout ce répertoire qu'on a quand même. Je suis désolée, il y a quand même beaucoup à faire. Et donc, je vais la voir à la fin, en coulisses derrière, là, au CNSM, je me souviens très bien. Et je lui dis, non, Hélène, est-ce que ça te plairait de faire un duo, un vrai duo avec moi? Elle me dit, mais bien sûr. Ah, j'étais toute contente et on a commencé, la première œuvre qu'on a commencé à travailler, c'était la fameuse sonate de Prokofiev. Et tout de suite, on s'est dit, tiens, bon, on va passer le concours de Vierzon, qui à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, était très réputé, le concours international de sonate, ça s'appelait. Et une année, c'était les vents, une année, c'était les cordes. Et on a gagné! Et on jouait donc Prokofiev, on jouait pièces de Roussel, on jouait je sais plus quoi d'autre. Et c'était on était partis là-bas toutes les deux, et puis on commençait à être très très amis. Et c'était super. Puis après on a continué, puis on a essayé d'avoir des concerts. On a passé d'autres concours, je crois, de musique de chambre.
Et c'est facile quand on devient très amis, justement, de travailler. Vous parlez du rapport, de la manière de dire les choses. Est-ce que ça facilite ou ça peut compliquer les choses parfois?
Non, non, ça facilite. C'est certain. Mais c'est toujours quand on joue une nouvelle œuvre. Ce que j'ai toujours beaucoup aimé avec Hélène, c'est qu'on n'a pas forcément envie de la même chose. Et du coup, on pousse l'autre dans des retranchements qu'on serait pas allé naturellement par là. Et donc, moi, je sais exactement vers quoi elle... C'est drôle, maintenant, parce qu'on est tellement que elle, un mouvement lent, elle va vouloir les tirer à fond, parce qu'elle est très expressive. Et puis moi, je lui dis, et dis donc, t'oublie pas que moi, j'ai pas un air qui dure 50 kilomètres. Enfin, c'est une chance immense de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça, en profondeur. Et puis, depuis si longtemps, c'est rare, hein, je pense, non?
Ah, j'imagine, oui, oui. Surtout qu'on vous entend vraiment majoritairement avec elle et au disque, beaucoup avec elle. Là encore, vous êtes très fidèle, vous n'allez pas vers d'autres pianistes. Enfin, j'imagine que vous jouez avec d'autres pianistes
parfois. Je ne peux pas imaginer faire un disque de flûte et piano ou pas avec elle, là, c'est juste pas possible. Bah non, c'est pas possible.
C'est votre pianiste.
Ah, elle n'aimerait pas que je dise ça.
Oui.
Mais non, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Ah non, non, ce serait horrible. Ah, ce serait une trahison, je pense.
Carrément, parfois on peut avoir envie d'avoir, je sais pas, une autre expérience.
Pour un disque ? Mais vous vous rendez pas compte que c'est un disque ?
Non, d'ailleurs, je voudrais savoir, Juliette Uriel, que je me rends pas compte que c'est un disque.
Je
Dites-moi.
Déteste enregistrer un disque. Ça me rend malade. Mais vraiment. Et ça ne s'arrange pas.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas. J'ai peur. J'ai très peur.
Pourtant, on peut recommencer, on peut faire des prises,
d'autres prises. Pas éternellement. De nos jours, 3 jours, basta, il faut que ce soit fait. Hein. Ça va vite. Et puis, alors, je vais vous dire pourquoi j'ai peur. J'ai peur de ne pas être en forme. J'ai peur de ne pas avoir le son que je veux. Je vais vous dire aussi, j'ai eu pas mal de problèmes avec les enregistrements, du genre un problème avec le piano, l'accord du piano, il fait super froid, coupure de courant. Des trucs comme ça, qui sont des aléas auxquels il faut être préparé, et puis il faut prendre du recul. C'est bon, j'ai quand même assez d'expérience, mais quand même, ça déstabilise, quoi. Mais surtout, non, l'envie de faire au mieux, le mieux possible, l'angoisse de la prise de son. Est-ce que je vais aimer la prise de son? Ce sera pas trop près, machin. Il y a beaucoup d'aléas dans un disque, en fait.
Vous êtes curieuse du répertoire, hein, de toute manière, de toutes ces musiques. Je trouve que vos disques sont pas forcément ceux que de tous les flûtistes. On a souvent des disques qui se ressemblent un peu. Alors vous, on vous a connu avec toujours la musique française, les Roparts, enfin des musiciens d'ailleurs, même pas la musique française la plus connue. Ce répertoire, vous le choisissez comment?
C'est vrai que j'aime bien découvrir des choses peu jouées. Moi, je vais vous dire, par exemple, le disque Bach, Inspiration. Je ne comprends pas pourquoi les arias de Bach, des cantates où il y a un rôle prépondérant à la flûte, ne sont pas connus des flûtistes. Mais pas du tout, du tout. Moderne, hein, j'entends. Les traversistes connaissent beaucoup mieux ce répertoire que nous. Et donc, je rêvais d'enregistrer ça parce que quand je suis arrivée à Rotterdam, je me suis acheté un coffret de Herweg et des cantates. Ça s'appelle un coffret super qui s'appelle les cantates de fête. Et donc, il y a Oratorio de Pâques, Oratorio de Noël, ça. Et j'écoutais ça, mais non-stop. Et là, à ce moment-là, à 28 ans passés, j'ai découvert ces arias. Et je me dis, mais moi, je veux les jouer, moi. C'est tellement beau. Et donc, c'était ça l'idée de ce disque Bach. Mais c'était la base, c'était mettre les arias. Donc, il y en a 3-4, je ne sais plus. Mais il y en a tellement d'autres. Et enfin, je les ai joués, le bonheur, pour de vrai, quoi. Ça, c'était extra. Ensuite, l'Équateur de Mozart, ça, c'était pas tel. Ça, ce qui est intéressant dans le disque, c'est aussi une discussion avec avec la boîte de disques. Donc, il y avait une idée d'enregistrer les concertos de Mozart. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'aimerais vraiment enregistrer un jour l'Équateur. Alors, avec qui? tu voudrais enregistrer ?» Ben, je dis, ben, y a deux options. Ou un quatuor constitué, ça me tenterait quand même, parce qu'il y a quand même une vraie cohésion. Ou on prend des solistes séparés. Et là, Didier Martin, donc le directeur d'Alpha, me dit, ben, « Écoute, moi, je voudrais te présenter le quatuor Rucci. » Quelle bonne idée. Et donc, on a fait une répète, on a déchiffré. D'ailleurs, eux, mais sympa d'accepter de faire des quatuors avec flûte, où ils ne sont du coup que trois. Parce que c'est cette particularité de ces quatuors de Mozart, c'est une flûte et trois cordes, et pas quatre. Donc sur deux quatuors, les deux violonistes se sont séparés le programme. Voilà, Cécile et Sarah. Et donc on a fait une répétition, on a tout déchiffré. Et là, c'était... Mais je connais pas tellement de gens plus sympas qu'eux. Mais alors, ils sont incroyablement sympas, les Voce. Oh, puis ils sont drôles, et puis... On répète, on a beaucoup travaillé, hein, et c'est toujours, si on sent un petit peu de fatigue ou quoi, il y en a un qui va désamorcer le truc avec une petite blague, ils sont vraiment, et puis alors le premier jour d'enregistrement, alors là ils m'ont pas reconnu, ils m'ont dit mais Juju, ouvre tes chakras, allez on va te faire des petits massages, et d'ailleurs j'aime beaucoup le disque des quatuors de Mozart avec le quatuor Voce, la prise de son je trouve très belle.
France Musique, les grands entretiens de Juliette Hurel.
Votre dernier disque, Juliette Hurel, est autour des compositrices. Comment vous êtes-vous penchée sur l'œuvre de ces musiciennes ?
Alors en fait, ça faisait déjà un bout de temps qu'on n'avait pas enregistré avec Hélène. Donc je me dis, écoute, là, j'ai vraiment envie d'enregistrer à nouveau avec toi. Qu'est-ce qu'on va enregistrer ? Voilà. Alors, on jouait pas mal la sonate de Melboni, ce qu'on aimait beaucoup. Donc on s'est dit, faut qu'on trouve quelque chose autour de Melboni. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de Melboni ? Alors, que du Melboni, pourquoi pas ? Bon, si ça va peut-être être un peu monotone, et puis surtout, ça serait bien de faire découvrir d'autres. On se dit, bah, tiens, pourquoi pas que des femmes ? Je connaissais deux pièces, la pièce de Cécile Chaminade, je la connaissais, la pièce de Lily Boulanger qui s'appelle « D'un matin de printemps », je la connaissais. Après, et là, chance, je rencontre Claire Baudin, qui est donc cette femme qui s'occupe d'un festival présence féminine à Toulon, mais qui aussi a une connaissance inouïe dans ce domaine. Elle me dit, mais vous savez, Juliette, Lily Boulanger, très bien, mais elle me dit, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, elle me donne une liste au téléphone. Elle me dit, il y a Clémence de Grandval. Alors là, j'étais mais surexcitée à trouver les partitions, trouver des enregistrements. Et du coup, on fait une session de travail avec Hélène où on déchiffre tout. Et puis, on a fait notre petite sélection. Après, en minute, on voit comment ça peut s'ajouter. Et là, tout ça, ça doit être en février, je pense, 2019, je pense. Et je dis, bon, Hélène, on enregistre avant l'été. Elle me dit, mais t'es complètement folle. Et je dis, non. Moi, je veux passer l'été tranquille. Je veux pas savoir qu'à la rentrée, j'enregistre un disque. C'est horrible. C'est pas possible pour moi.
Trop de stress.
Et l'été est un temps béni. C'est béni. Il fait bon, on se relaxe. Non, je t'en supplie Hélène, on enregistre avant l'été. Elle me dit, t'es complètement malade. Je dis, mais c'est pas grave. Je dis, mais alors du coup, tac, quoi. Parce qu'on avait ces pièces qu'on n'avait jamais jouées. Elle me dit, moi j'aime pas arriver sur un enregistrement, jouer des trucs qu'on n'a jamais joués. Et ben je dis, on va les jouer, on va trouver des concerts. Donc on a trouvé des rodages, on a mis les bouchées doubles. Et donc, c'était juillet, et après, hop, fini. Ah, oh, contente, soulagée. Mais on a fait ça très vite.
Et vous êtes fière de ce disque, celui-là, oui.
J'aime pas dire que je suis fière, mais je l'aime. au même moment, j'ai été très prise par deux projets. Le projet des femmes compositrices et un projet autour de Missia Sert, qui est une femme extraordinaire, qui était donc mécène et muse des plus grands et qui donc était très proche de Cocteau, Diaghilev, Stravinsky, mais aussi qui a été peinte par Bonnard, enfin, plus, je ne sais pas combien de fois, enfin, c'est hallucinant cette femme. Et j'ai découvert sur les ondes de France Musique la chronique de Julie Depardieu. Et la première fois que j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est fou ce qu'elle raconte. Et je crois que la première émission, c'était, elle parlait de Baudelaire qui écrivait à Wagner, qui lui dit son admiration, qui à la fin de la lettre dit, je ne vous laisse pas mon adresse, je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous demande quelque chose. Et elle raconte ça, et je trouve qu'elle raconte mais ça divinement. Et puis du coup, je les écoute, mais alors toutes, je me fais la totale, j'en loupe pas une. Et je vais à France Musique faire une interview chez Saskia Deville pour présenter mon disque Inspiration. Et dans le couloir, qui je vois? Julie Depardieu. Merci les petits anges. Je la vois, je dis Julie, je vous adore. Je vous adore, vos chroniques me donnent un bonheur immense. Elle fait, merci, et partie. Et là, l'attaché de presse de Alpha me dit, mais tu la connais? Je dis, ben non. Il me dit, mais j'aurais dû te la présenter. Je dis, ben non, je veux juste lui dire que je l'aime. C'est pas du tout, je veux rien lui demander, moi. Il dit, bon, d'accord. Et donc, je repars à Rotterdam, tranquille. Et là, dans le train, je me dis, mais en fait, ça fait longtemps qu'on a envie de faire quelque chose avec Récitant. Si on pouvait faire quelque chose avec Julie Depardieu, qui est amoureuse de la musique classique à un point, peut-être presque autant que moi, ça serait extra, quoi. Mais je dis, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je cogite, je n'en dors pas de la nuit, je cogite. Et je me souviens de ce livre qu'Hélène m'avait offert sur Missia Sert. Et je dis, ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, on a tout ce qu'il faut, parce que Missia parle de Ravel, elle parle de Debussy, elle parle de Stravinsky, et nous, on a tout ce qu'il faut pour flûte et piano, pour illustrer les anecdotes de Missia. Donc, je réécris à Mathieu Benoît, l'attaché de presse adorable de Alpha, je dis, je voudrais bien ses coordonnées, pas de problème, il me les envoie. Alors là, je mets un certain temps à écrire un mail, je me dis, bon, Inch'Allah, on verra bien. Le lendemain, téléphone sonne. Allô, c'est Julie Depardieu. Merci. Oui, super. Je suis à fond. J'adorerais faire ça. Alors là, j'étais tellement contente.
Ce projet pourra peut-être faire l'objet d'un autre disque, un prochain disque. Pour des projets comme ça, vous pouvez trouver du positif à l'enregistrement, Julia Turel?
Non.
Vraiment pas?
Non. Je n'ai pas de plaisir. Je ne sais plus dans quelle émission j'ai entendu. Je ne sais pas. Je crois que c'est Samson François qui a dit « Il faut prendre le micro comme un ami ». C'est pas ça? Et donc ça, peut-être, il faut que je le retienne et que je me l'écrive en gros quelque part pour la prochaine fois. Mais non, mais c'est pas un supplice non plus. Et surtout si j'enregistre avec Hélène, de toute façon, ça va être sympa. Mais c'est quelque chose de très éprouvant, ça c'est certain. Parce qu'on veut donner le maximum de soi-même, évidemment, comme à chaque fois qu'on joue, mais le disque, ça reste, quoi. Et puis...
qui vous fait peur, peut-être que ça reste?
Oui, mais par exemple, si je suis enregistrée, si à la radio ou la télé, j'ai aussi beaucoup plus peur. Beaucoup plus, parce que ça reste, c'est vu par plus de monde. J'espère que c'est bien, assez bien, quoi, ce que je vais faire. C'est plus par rapport à moi, j'ai l'impression, à mon standard. Le standard que je veux avoir. Je pense que je suis un peu trop... je me mets la barre peut-être trop, c'est fatigant. Hein.
Vous êtes trop perfectionniste?
Peut-être. On est comme ça, hein. Mon mari aussi, d'ailleurs. Et on essaye que nos enfants partent. Parce que c'est fatigant. Justement, on leur dit aussi... Enfin, faut relativiser au bout d'un moment. C'est très important de relativiser. Enfin, je veux dire, la Terre continue de tourner. Hein. Donc, voilà. Restons... tout ça n'est pas si important, mais c'est, on veut faire les choses bien. Et puis, c'est un métier tellement génial, tellement génial.
Vos enfants sont musiciens, d'ailleurs ?
Ça, c'est un regret. C'est un regret. L'aîné joue de la batterie.
Comme votre frère ?
Bah oui, mais alors ceux-là, ils sont connectés. De toute façon, ils sonnaient le même jour déjà. Enfin, il y a encore un truc là. C'est les mêmes. Et donc ça, mais ils sont super doués. Mais bon, non, mais c'est pas leur truc. Et Jean, le deuxième, il a fait de la trompette, mais il pleurait avant chaque cours. Enfin bon, c'est pas possible, quoi. C'était du stress, pas de plaisir. Dommage, hein. Mais Josquin, l'aîné, il joue dans un groupe. Bon, là, malheureusement, il n'y a rien en ce moment, mais il est content d'aller faire Et puis, non, mais ils sont doués, c'est ça qui est dingue.
Ils sont musiciens, enfin, ils ont une oreille. Ah, enfin, non, vous dites, mais... ils sont doués pour la musique.
Ah, mais très, très. Et puis, ils reconnaissent tout de suite. C'est Mozart, Beethoven, Debussy. Ils savent, ils entendent très bien. Mais ils viennent au concert quand même. J'y tiens. Par exemple, ils ont entendu Martha Argerich avec l'orchestre, ils ont entendu Daniel Barenboim, mais. Josquin qui dit non, j'ai conscience d'avoir entendu une légende. Je dis bon, c'est bien. Par exemple, Truls Mork, un musicien que j'aime immensément, ils sont venus écouter. Non, je trouve ça important quand même. Mais peut-être que c'est parce. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lié au fait que la musique classique pour eux est synonyme que du travail de leurs parents, qu'ils étaient beaucoup partis? Mais je ne crois même pas que ce soit ça. C'est juste des affinités, hein, c'est pas grave. Ils vont faire autre chose, c'est très bien aussi. Hein.
Donc le batteur joue du rock?
Le batteur joue du rock, ouais. Mais le batteur veut être designer et il sait ce qu'il veut faire. Il est archi passionné, donc c'est chouette.
Et vous avez pensé, vous, à jouer à autre chose que de la musique classique? Alors, avec votre papa qui joue du jazz, vous avez un frère qui joue de la batterie. Ça a été tout de suite l'idée de la musique classique, d'ailleurs?
Ah, mais oui, oui.
Pas de jazz?
Non, pas de jazz. Mais déjà, moi, je me souviens, quand j'étais petite, je trouvais ça moche, la flûte jazz. Bah ouais, je trouvais ça vraiment moche. Quand on écoutait des disques et tout, je trouve ça pas beau. Et puis après, je pense que j'ai dû lui dire assez souvent, je suis désolée hein, de ne pas faire de jazz, je suis désolée, je suis un foutu d'improviser. Mais c'est peut-être un jour quand même, je ferai. Pas pour des concerts ni rien, mais pour... Parce que par exemple, il y a une musique que j'adore immensément, c'est la bossa nova. Samba, tout ça. J'ai une passion pour João Gilberto. Mais vraiment, une passion. Je l'entends chanter, cette langue, le portugais brésilien, mais c'est d'une douceur, je ne comprends rien. Alors ça, c'est bête. Ça, je voudrais apprendre, je voudrais comprendre ce qu'il me raconte. Donc ça, je me dis, si je pouvais un peu jouer ça, ça doit être tellement bon.
Estate, sei calda come il bacio che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ti scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo.
Nous refermons cette émission avec la voix et la guitare de João Gilberto. C'est le choix de Juliette Hurel qui nous a confié son amour pour la musique brésilienne. Dernier volet de ses grands entretiens demain, musique indienne et musique française avec son musicien préféré, Maurice Ravel. Merci à Lucas Derode, Gilles Blanchard, Marie Le Peintre et Flora Sternadel. Toute notre programmation est sur notre site internet francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.